Salut et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer un sujet qui remet pas mal de choses en question.
Salut. Ouais, je suis prêt et je crois qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui avec ces documents.
Grave. Et pour commencer, je pensais à un truc. D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend toujours à une précision chirurgicale, tu vois. C'est presque de l'ingénierie.
C'est clair. On veut des faits, des chiffres.
Voilà. Tu te casses le bras, on te fait une radio et le médecin te montre cette petite ligne blanche sur l'os. Et il te dit un truc du genre, bah voilà, c'est là. Le radius est fracturé exactement à cet endroit.
Et ça nous rassure énormément. En fait, l'esprit humain, il est complètement câblé pour adorer ce genre de certitude.
Absolument.
Ouais, mais on aime quand la douleur peut être mise dans une case. Quand elle peut être étiquetée et surtout résolue avec un protocole qui est super clair. La médecine moderne nous a vraiment habitués à cette relation de cause à effet très nette, quoi.
Ouais, mais le truc, c'est que dès qu'on sort de l'hôpital et qu'on entre dans le domaine de la souffrance humaine plus existentielle ou des deuils qui n'ont aucun sens, bah là, la fameuse machine à rayons X, elle sert plus à rien du tout.
Ah non, elle est complètement inutile.
On se retrouve face à un brouillard émotionnel total. Et cette clarté dont on parlait, elle disparaît. Et c'est exactement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On se base sur la 30e session des cours du docteur John Walton.
Une session fascinante, d'ailleurs.
Complètement. Une session qui porte sur l'application du livre de Job. Et en parcourant ses sources, c'est fou à quel point ça percute notre culture actuelle du développement personnel.
Ouais, c'est le grand écart.
Parce que normalement, quand ça va mal, on veut des solutions express. On veut les 3 étapes faciles pour aller mieux. Mais ce document, il propose une approche qui va, mais alors radicalement, dans la direction opposée.
Le contraste est vraiment saisissant, c'est vrai. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est pas du tout de distribuer des petits pansements psychologiques ou des phrases toutes faites.
Ah non, pas du tout.
Walton, dans ses cours, il pose un cadre intellectuel qui est hyper rigoureux. Il s'attaque à une question assez brutale. Comment est-ce qu'un texte aussi ancien sur la souffrance absolue peut s'appliquer à nous aujourd'hui?
C'est la grande question.
Et son idée centrale, c'est que face au chaos d'une tragédie, chercher une réponse mécanique, la fameuse explication façon radiographie dont tu parlais, bah c'est voué à l'échec. Et ça peut même empirer les choses.
Ce qui est dingue, c'est qu'avant même de parler de la douleur elle-même, la source passe un temps fou sur l'idée de préparation. Il y a cette distinction conceptuelle qui m'a marquée entre les points d'action et les points de réflexion.
Ouais, la distinction clé de son approche.
Et j'avoue que dans un monde où on est tous obsédés par la productivité, dire qu'il faut privilégier la réflexion sur l'action, ça semble presque... Enfin, c'est totalement contre-intuitif.
C'est une réaction très moderne que tu as là. Aujourd'hui, quand on lit un bouquin de conseils, on cherche direct le point d'action. Genre, quelle habitude je dois changer demain matin à 6h?
C'est ça, on veut cocher des cases.
On veut des tâches à accomplir pour se donner l'illusion qu'on contrôle la situation. Alors Walton, il dit pas que les points d'action c'est mal, hein, mais il affirme clairement que le livre de Job n'en contient absolument aucun.
Zéro. C'est quand même fou.
Zéro point d'action. Ce livre ne propose que des points de réflexion. En fait, le but c'est pas de corriger un petit comportement par-ci par-là, c'est de reconfigurer toute notre architecture mentale.
De tout changer à la racine, quoi.
Exactement. L'idée c'est que si on change profondément notre façon de percevoir la réalité, c'est cette nouvelle vision qui va dicter nos actions quand la vraie crise arrivera.
Donc on parle vraiment d'une modification de structure. En lisant ça, ça m'a fait penser à une métaphore. C'est un peu comme si, au lieu de juste télécharger une petite appli sur ton téléphone pour régler un souci mineur, tu décidais d'installer un tout nouveau système d'exploitation.
Ah, j'aime beaucoup cette image.
Parce que l'installation du système, ça prend un temps infini. L'écran reste noir, tu peux plus rien faire avec ton téléphone sur le moment. Ça a l'air fastidieux et presque inutile. Mais une fois que l'OS est installé, bah la machine entière va interpréter chaque ligne de code totalement différemment.
C'est exactement ça. La métaphore de l'OS illustre parfaitement la profondeur du travail qu'il faut faire. D'ailleurs, les analogies de la source vont dans ce sens. Prenons un truc physique très exigeant, comme un marathon.
Ouais.
Personne de sensé ne se lève en matin sans s'être jamais entraîné pour courir 42 km. Le cœur, les muscles, tout lâcherait.
Ce serait un désastre, ouais.
Paille invisible, la mémoire musculaire construite des mois à l'avance qui rend le truc possible.
Ce qui m'amène à une autre analogie, beaucoup plus terre à terre, que la source utilise, celle du pneu crevé.
Ah oui, très parlante celle-là.
Si on veut apprendre à quelqu'un, disons à un adolescent, à changer une roue, on va pas attendre qu'il soit à minuit.
Sous la pluie.
Voilà, sous une pluie battante, sur une route déserte, avec des camions qui passent à 100 à l'heure juste à côté. Parce que la panique, ça bloque complètement l'apprentissage. On va plutôt choisir un beau dimanche après-midi, dans l'allée de la maison, tranquille.
C'est de la neurologie basique au fond. Le cerveau humain, quand il est en état de terreur ou de douleur intense, il n'assimile plus de nouveaux concepts complexes. Le cortex préfrontal, qui gère la logique, il est court-circuité par l'instinct de survie.
Du coup, on ne peut pas réfléchir posément.
Impossible. Et Walton applique cette réalité directement à la lecture de Job. Essayez de lire ce texte, qui est aride et super dense philosophiquement, au moment même où on traverse un drame personnel, c'est une grosse erreur stratégique.
C'est trop tard.
C'est trop tard, ouais. La patience intellectuelle qu'il faut pour comprendre ces nuances, on l'a plus quand on souffre. Il faut absorber ces points de réflexion avant la tempête.
D'accord, donc on installe le fameux système d'exploitation pendant qu'il fait beau, avant l'attaque du virus. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce système, en fait? Parce que si on fait tout ce boulot, on pourrait s'attendre à ce que la spiritualité nous offre une belle couverture bien chaude pour nous réconforter.
Et c'est là que ça coince.
Oui, les documents sont clairs, hein, c'est pas du tout ce qui est au programme. Le livre de Job ne cherche pas à nous rassurer, pas une seule seconde.
C'est un des aspects les plus déstabilisants de cette étude. L'attente de réconfort est constamment frustrée dans le texte. Les amis de Job, qui viennent pour le soutenir au départ, deviennent ses accusateurs.
Sympa les amis, au passage.
Ouais, de vrais modèles de compassion. Sa famille ne l'aide pas non plus. Et quand Yahvé intervient enfin à la fin, dans un tourbillon, il prononce pas un seul mot apaisant. Zéro consolation. Zéro explication sur le pourquoi du comment.
Et Walton dit même que la restauration finale de Job, à la fin du livre, c'est pas fait pour être un happy end à la Hollywood, pour nous consoler.
Non, c'est pas fait pour ça.
Mais du coup, si on enlève le réconfort et qu'on refuse de nous dire pourquoi on souffre, il y a de quoi se sentir complètement abandonné. Et il y a une question qui s'impose. On se dit, la religion, c'est pas censé être un abri réconfortant.
C'est ce qu'on aime croire.
Si on n'a ni réconfort, ni explication, qu'est-ce qui nous reste à part le fatalisme pur et simple?
Il nous reste l'acceptation. Mais attention, l'acceptation au sens fort. Le document explique que réclamer des explications détaillées à l'univers, c'est ce qu'il appelle une erreur de catégorie.
D'accord.
Ce que Job finit par obtenir, c'est pas de comprendre pourquoi il a souffert. C'est une révision totale de sa perspective sur les termes du contrôle de Dieu. L'alternative au réconfort, c'est d'accepter comment le monde fonctionne réellement, sans exiger que ça s'aligne sur notre confort personnel.
C'est là qu'intervient l'analogie financière de Walton, non? Le compte d'épargne.
Exactement. Chercher des consolations rapides en pleine tragédie, c'est comme essayer frénétiquement de payer des factures urgentes alors qu'on vient de perdre son emploi et qu'on a zéro économie.
C'est la panique totale.
C'est de la réaction pure. Par contre, développer cette acceptation en amont avec les points de réflexion, c'est comme accumuler un capital de résilience. Quand la crise frappe, tu t'effondres pas dans l'incompréhension, parce que ton capital philosophique est déjà en banque, pour filer la métaphore.
Ouais, je vois. Mais pour que cette acceptation soit possible, j'ai l'impression qu'on doit d'abord détruire pas mal de mythes. Parce que pour accepter de pas avoir d'explication sans hurler à l'injustice, ça veut dire que notre image du divin était fausse dès le départ. Et la source liste justement ces fausses images de Dieu qu'il faut déconstruire de toute urgence.
C'est une étape incontournable. Selon Walton, notre plus gros problème, c'est de projeter nos petits défauts humains sur le cosmos. On s'imagine un Dieu mesquin.
Ouais, le terme anglais dans la source, c'est « picayon », je crois.
C'est ça. Ça veut dire « tatillon » ou « pointilleux », un peu comme un comptable cosmique avec son stylo rouge qui chercherait la moindre virgule mal placée dans notre dossier.
Le grand inspecteur des travaux finis qui note chaque fois qu'on a klaxonné de rage dans les bouchons.
Exactement. Et la source illustre le drame de cette vision avec l'histoire d'un patient en phase terminale. Un homme qui avait été un chrétien dévoué toute sa vie, qui avait aidé les autres, tout ça.
Et qu'est-ce qui se passe pour lui?
Eh bien, sur son lit de mort, au lieu d'être en paix, il était rongé par la peur. Il était terrifié à l'idée d'en rencontrer le Christ, persuadé qu'il allait se faire engueurer pour ne pas en avoir fait assez ou pour ne pas l'avoir fait parfaitement.
C'est d'une tristesse absolue, finir sa vie avec cette angoisse.
Ça montre bien comment cette idée d'un Dieu comptable efface complètement le concept de grâce.
Et la déconstruction s'arrête pas là. Il y a un autre truc que j'ai noté. On vit dans une société où le service client est roi. Tu vois, genre, ton vol est en retard, tu veux parler au manager, tu veux un bon d'achat, tu exiges des explications.
Le fameux « je veux voir le responsable ».
Voilà. Et on transpose ça spirituellement. Dès qu'il y a un drame, on veut convoquer le manager de l'univers dans notre bureau pour lui demander des comptes.
Et Walton en frontal là-dessus, Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Exiger que ses actions soient justifiables selon notre petite logique humaine, c'est une absurdité selon les textes anciens.
Ça fait mal à l'ego, ça.
Ouais. Mais attention, il y a un autre piège. Si on dit que Dieu ne nous doit pas d'explication, L'humain panique et imagine l'extrême inverse, un univers qui serait purement arbitraire. Du coup, le texte insiste, Dieu n'est pas non plus une créature de chaos.
Ça veut dire qu'il n'est pas capricieux, c'est ça, Sarah ?
Exactement. Dans les mythologies antiques, les dieux s'amusaient avec les humains, par ennui ou par jalousie. Ils étaient amoraux. Ici, le postulat, c'est que l'absence d'explication ne veut pas dire absence de cohérence.
C'est juste qu'on n'a pas la vue d'ensemble.
Voilà. C'est pas parce qu'on voit que quelques coups de pinceau qui nous paraissent chaotiques que le peintre balance la peinture au hasard sur la toile. On postule une bonté constante, même si on la comprend pas.
Et en parlant de nos attentes, ça me fait penser à cette manie qu'on a de traiter le divin comme un distributeur automatique.
Oh, le fameux distributeur cosmique.
C'est ça. Le mécanisme est simple. On insère quelques pièces de bonne conduite, un ou deux billets de fidélité, on appuie sur le bouton « santé » ou « réussite » et paf, la bénédiction est censée tomber. Et si ça tombe pas, on secoue la machine en hurlant. On essaye de forcer le système.
C'est de la manipulation pure et simple. C'est très humain face à l'impuissance. Même Job est tombé dans le panneau.
Ah ouais, oui.
Dans sa douleur, il fait la liste de ses bonnes actions pour essayer de forcer la main de Yahvé. D'autres utilisent les promesses de la Bible comme des contrats juridiques. Genre, tu as promis ça, donc tu dois me le donner.
On sort l'avocat spirituel.
Mais le document est catégorique. Essayer de manipuler la source de l'univers, ça marche pas. Dieu ne nous doit rien, même si on a été irréprochable. On n'accumule pas de droits sur lui.
C'est un sacré choc pour notre façon de voir la prière, du coup. Si la prière, c'est plus un bon de commande sur Amazon, c'est quoi ?
Bah, la source dit qu'on peut toujours prier pour des résultats, pour une guérison. Mais la posture de base doit changer. La prière ultime, ça reste « que ton règne vienne », pas le nôtre. C'est un acte de soumission.
Et la conséquence de ça, c'est peut-être le truc le plus dur à avaler. Parfois, la réponse, ce sera pas une guérison. Parfois, la force qu'on reçoit, c'est pas pour être libéré du problème, mais pour vivre avec.
Vivre avec la maladie, avec la perte. C'est l'incarnation de ce système d'acceptation dont on parlait.
Là, on arrive au point de rupture. Récapitulons. Dieu n'est pas un distributeur automatique, nos bonnes actions ne nous protègent pas du chaos, il ne nous doit aucune explication et on pourrait devoir porter un poids énorme toute notre vie.
C'est le tableau, ouais.
N'importe qui de rationnel dirait « mais pourquoi continuer ?» Alors que s'il n'y a pas de retour sur investissement, pourquoi rester fidèle ? C'est quoi l'intérêt ?
Et on touche au cœur du sujet. Walton appelle ça la droiture des intéressés. C'est la question que l'accusateur pose au début de Job. Est-ce que Job craint Dieu pour rien ?
Est-ce qu'on le servirait si on enlevait tous les avantages ?
Exactement. Et la source va encore plus loin. Elle prend l'exemple d'Abraham et pose la question qui tue : servirions-nous encore si on nous retirait même l'espoir du paradis ?
Waouh ! C'est le test ultime. Est-ce que j'aime le donateur ou est-ce que je suis juste amoureuse du cadeau ?
C'est tout à fait ça. Si on enlève la carotte cosmique, beaucoup de pratiques religieuses s'effondrent parce qu'elles servent juste à gérer l'anxiété.
Mais du coup, si c'est pas une salle d'attente pour le paradis, quel est le but de la relation ?
Le but, c'est le partenariat. C'est participer à l'œuvre d'un royaume maintenant, au milieu des décombres de ce monde.
Le partenariat est la récompense en soi, même si ça implique d'être dans la tempête. Ça donne un tout autre sens à la souffrance. Et ça explique pourquoi Walton s'attaque ensuite à ce verset très connu, 1 Pierre 3,15, sur l'espérance.
Oui, un verset souvent mal compris.
On l'utilise souvent pour dire qu'il faut avoir des arguments intellectuels, faire de l'apologétique, gagner des débats, quoi.
Alors que pas du tout. Walton remet le contexte. Le chapitre parle de gens qui subissent des persécutions extrêmes. L'injonction d'être prêt à justifier son espérance, elle s'adresse pas à des intellectuels bien au chaud, elle s'adresse à des gens brisés.
C'est ça qui est puissant. Imaginons quelqu'un aujourd'hui, sa vie vole en éclats. Perte d'emploi, risque de saisie, mauvaise nouvelle médicale, la totale. Tout le monde s'attend à ce qu'elle devienne cynique ou désespérée.
Ce qui serait logique.
Mais cette personne, sans nier sa douleur, elle dégage une paix résiliente, une espérance qui n'a aucune logique matérielle. Et c'est là, au milieu des ruines, que les voisins et les amis vont craquer et demander « mais comment tu fais ? Comment tu tiens debout dans ce noir total ?»
Et c'est ça, la vraie apologétique selon Walton. Une espérance injustifiée par les circonstances, c'est 1000 fois plus percutant contre le cynisme ambiant que n'importe quel débat philosophique. Le vrai laboratoire, c'est le creuset de la souffrance.
Bon, alors, comment on rassemble tous ces morceaux ? On a parlé du nouveau système mental, de l'abandon du distributeur automatique, de la droiture des intéressés. Mais concrètement, sur quoi on s'appuie quand le sol s'ouvre sous nos pieds ?
Tout ça converge vers un seul mot, la confiance. C'est la fusion entre l'acceptation intellectuelle et l'abandon émotionnel. La source fait une remarque très juste. Quand il y a un drame, on regarde vers le passé pour chercher des causes.
Pour essayer de contrôler un peu le truc.
Exactement. Mais quand on regarde vers l'avenir, on doit chercher un but, pas une cause. Penser qu'on peut comprendre le plan d'ensemble avec notre intellect, c'est illusoire. Comme dit Walton, on ne peut pas être plus intelligent que Dieu.
Et c'est là qu'on cite ce fameux roman « The Shack » ou « La cabane » en français. D'ailleurs, peu importe les controverses autour de ce livre, on va s'en tenir à l'image philosophique qu'il propose.
Qui est très pertinente.
Le personnage principal a perdu sa fille dans des circonstances atroces et on lui explique qu'il essaie de juger l'univers entier en regardant à travers le minuscule trou de serrure de sa propre douleur et de son ego.
Et de ce point de vue étriqué, évidemment que la douleur semble prouver que la divinité est cruelle ou incompétente.
On regarde par le petit trou de serrure, on voit que c'est sombre et on décrète que le soleil n'existe pas.
C'est exactement ça. Le texte de The Shack dit que la faille de ce raisonnement, c'est l'incapacité à croire que Dieu est bon. Si on était certain de cette bonté, la confiance tiendrait même dans le noir.
Mais ça se force pas à la confiance.
Non, ça découle organiquement d'une relation où on se sait aimé. Si tu doutes de cet amour, toute l'architecture s'effondre à la première secousse.
C'est pour ça que la préparation est si cruciale. Tu peux pas apprendre à faire confiance pendant que tu es en train de te noyer. D'ailleurs, pour conclure sur l'incompréhensibilité de tout ça, la source cite l'apôtre Paul dans l'épître Romains au chapitre 11.
Oui, Paul pousse des questions rhétoriques géniales. Qui a été le conseiller de Dieu ? Personne. Qui lui a donné le premier pour exiger un remboursement ?
Personne non plus. Au revoir la transaction.
Voilà. Ces chemins nous dépassent. Face à ça, la seule réponse qui ne rend pas fou, c'est la confiance radicale.
La boucle est bouclée, quoi. On n'aura jamais de radiographie nette de nos douleurs. À la place, on nous tend cette boussole de la confiance pour traverser la tempête.
C'est le résumé parfait.
Et ça m'amène à une dernière réflexion, un truc à creuser pour tout le monde après cette écoute. Si cette confiance et cette droiture désintéressée, c'est comme un muscle qu'on va forger dans la lumière pour qu'elle résiste dans l'obscurité, eh ben c'est fort possible que les moments les plus banals de notre vie soient le terrain d'entraînement le plus important.
Les jours où il se passe rien.
C'est ça. Comment on s'entraîne à renoncer à notre approche transactionnelle un mardi après-midi ordinaire quand rien de tragique ne se passe. C'est peut-être là, dans la gestion de l'ennui ou de l'ordinaire, qu'on prépare vraiment notre capacité à tenir debout pour la prochaine tempête.
Je pense que la réponse à cette question, ça définit la solidité du système d'exploitation de chacun, ouais.
Le défi est lancé. Un immense merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de ces textes. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.
À la prochaine.